De la question.
Qu'est-ce que c'est ?
Pourquoi c'est comme ça ?
Comment fait-on ?
Est-ce que ça va changer ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver avec Guillaume Ploquin à la réalisation pour remettre en question la radioactivité aujourd'hui. Comment appréhender ce phénomène naturel issu de la Terre et du cosmos que les hommes ont découvert et tenté de domestiquer pour le meilleur mais aussi pour le pire? Qu'est-ce que la radioactivité? Pourquoi est-elle présente partout? En combien de temps se désintègre-t-elle? Pourquoi en fabriquer dans nos centrales nucléaires? Comment évaluer les risques? Après Tchernobyl et Fukushima, pouvons-nous encore jouer avec le feu? Voilà quelques-unes des interrogations que nous allons soulever avec nos invités, le physicien Jean-Marc Bonnet-Bideau et Camille Fadel, directeur de l'unité de physique du Palais de la Découverte, autour de la question « Pourquoi la radioactivité ?» Bienvenue. Bonjour Camille Fadel.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes responsable du département de physique du Palais de la Découverte à Paris, où se tient actuellement et jusqu'en juin l'exposition « La radioactivité de Homer », alors c'est Homer Simpson, à Oppenheimer, c'est le père de la bombe H, une exposition très complète proposée par l'ANDRA qui n'évite pas les sujets qui fâchent, on va y revenir hein, sur la radioactivité, mais qui est au fond une science historiquement associée au Palais de la Découverte.
Oui, par son côté, je dirais, la radioactivité, c'est quelque chose qui concerne le noyau atomique. Même si la radioactivité, elle a été découverte bien avant la naissance du Palais de la Découverte qui date de 1937, mais c'est dans les années 30 que les physiciens commencent vraiment à pouvoir manipuler le noyau atomique, et c'est en quelque sorte vraiment les débuts de la physique nucléaire. Et donc, les années 30, le palais naît, la physique nucléaire, il y a une forte liaison depuis.
Bonjour Jean-Marc Bonnet-Bideau.
Bonjour.
Vous êtes astrophysicien au CEA, le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Vos travaux de recherche portent notamment sur les derniers stades de la vie des étoiles. Vous vous intéressez aussi à l'astronomie ancienne de l'Afrique et de la Chine. Consultant scientifique pour le magazine Ciel et Espace, vous aviez publié un article qui m'avait marqué sur la radioactivité que vous aviez titré « La face sombre de la matière ». Pourquoi la radioactivité est-elle la face sombre de la matière ?
Bien, la radioactivité, effectivement, c'est la face sombre, c'est parce que c'est d'une certaine façon un petit peu une erreur de la nature. Et on la comprend, cette erreur, quand on comprend comment se forge cette matière très particulière dans un cataclysme extraordinaire, l'explosion d'une étoile. Et on comprend que la nature, dans ces conditions cataclysmiques, ne peut pas faire les choses aussi bien qu'elle le fait d'habitude. Et donc, elle nous forme une matière anormale, on pourrait dire, et qui n'a que comme seule fonction que de disparaître progressivement. Donc c'est ça, c'est une erreur de la nature que la nature corrige immédiatement. Et cette face sombre, c'est parce qu'en fait, l'homme a vécu pendant des milliers d'années à côté de cette matière radioactive sans en prendre conscience, et que, un petit peu par hasard, on a découvert qu'autour de nous, il y avait cette matière qui émettait par elle-même une énergie gratuite, on pourrait le dire.
Autour de la question « Pourquoi la radioactivité ?» pour tenter d'éclairer donc cette face sombre de la matière. Première piste de réflexion sonore et évidemment radioactive, c'est le mix de Guillaume Ploquin.
On a beaucoup de personnes qui pensent que la radioactivité est une invention. Alors que non, l'évolution des espèces de la vie s'est faite avec la radioactivité.
Bonjour, je suis Tom. Et je suis un atome.
Le carbone, par exemple, et tous les autres éléments, comme le calcium, le magnésium, tout ce dont on a besoin pour vivre, ces éléments-là se sont formés dans des étoiles par des réactions nucléaires qui conduisent à des éléments radioactifs.
Parfois, certains noyaux ont trop de particules et deviennent instables. Ils sont obligés de libérer de l'énergie pour retrouver leur stabilité.
Nous dénonçons cet état de dangerosité, d'insécurité mondiale. Notre objectif, c'est évidemment l'abolition des armes nucléaires.
Les organes cancéreux sont soumis journellement à un bombardement d'irradiation radioactive qui démantèle et détruise les cellules malignes.
Moi, ce qui m'inquiète beaucoup plus, c'est l'enfouissement des déchets nucléaires, parce qu'on sait pas où on va.
Deux ans après 2011, la première vague de radioactivité partie de la centrale nucléaire de Fukushima atteint progressivement la côte de la Californie.
C'est quoi ça ?
Les courants marins risquent de rendre notre baie radioactive. Il y a une telle peur aujourd'hui. Personne ne voudra acheter nos poissons et nos fruits de mer.
On sait que pendant la période de désintégration, il y aura la moitié des atomes qui va se désintégrer. C'est la définition de cette période.
C'est un phénomène phénomène naturel qui a lieu tout le temps, partout, même dans votre corps.
Mais comment un atome individuel peut-il savoir quand il va se désintégrer ?
Jean-Marc Bonnet-Bidot, c'est une question de physicien que Guillaume a repris dans son mix, la question de Marc Lachaiserais. Est-ce qu'on sait quand, comment, pourquoi un atome tout seul il décide qu'il va se désintégrer et donc,
alors, non, on ne sait pas quand est-ce qu'il décide, mais on a bien compris les mécanismes. Alors effectivement, c'est un tout petit peu technique, c'est vraiment la physique quantique qui nous a fait comprendre ça. Alors on explique encore la radioactivité, par exemple le déséquilibre de cette matière dont je parlais tout à l'heure, par une proportion de particules. Il faut savoir qu'évidemment la nature est faite de briques, c'est comme un Lego, hein, avec des briques élémentaires. Alors, c'est surtout dans le noyau des atomes que se forge cette matière où il y a protons et neutrons. C'est les deux éléments que l'on considère, effectivement. Et la nature, quand elle fait bien son travail, elle en met à peu près en égale proportion. Et là, en général, on a un atome stable. Mais dans les explosions d'étoiles dont je parlais tout à l'heure, alors il y a un afflux de neutrons, beaucoup plus de neutrons, qui se collent à des noyaux, et là, il y a un déséquilibre. Un atome radioactif, c'est un atome, un noyau radioactif, c'est un noyau qui a trop de neutrons en général, et qui tente à revenir à l'équilibre. Alors, le problème que se posent les physiciens, on a compris ça, alors si on allait plus dans le détail, vous savez que maintenant, on a encore à l'intérieur de cette poupée russe qu'est le noyau, d'autres éléments. Le proton lui-même est fait de trois quarks.
De plus en plus petits.
Voilà.
Enfin.
Et on a bien compris comment, à l'intérieur d'un atome, par exemple, un neutron pouvait devenir un proton. C'est par une loi physique qu'on appelle l'interaction faible. Et donc, mais en revanche, ce que ne comprennent pas les physiciens, c'est, comme disait Marc Lachaiserais, quand est-ce qu'ils décident de le faire ? Et on a en fait une loi statistique, c'est-à-dire qu'il faisait allusion à la durée de vie d'un élément radioactif. Un élément radioactif, une fois qu'il est constitué, a tendance à revenir à l'équilibre en émettant des neutrons, en revenant vers cet équilibre de proportion. Mais il le fait en moyenne très régulièrement, mais on ne peut pas dire à quel moment il le fait très exactement. Mais en moyenne, c'est comme le tirage du loto, hein. C'est d'un tirage à l'autre, vous savez pas quels sont les numéros, mais si vous en faites 100, vous avez la moitié des chances. Et donc, c'est à la fois une question de physique qui n'est pas résolue, mais globalement, on sait très très bien comment se comporte la matière radioactive.
Autour de la question, pourquoi la radioactivité? Donc, on l'a bien compris, la matière radioactive, elle est partout. C'est un phénomène naturel. Dans cette exposition, on découvre, on parle de la découverte, Camille Fadel, qu'elle est dans notre corps, la radioactivité, qu'elle est dans les légumes qu'on mange, enfin, qu'elle est partout.
Oui, puisqu'il y a parmi les éléments, dans ce qu'on a entendu, on a parlé à un moment de carbone. Eh ben, il se trouve, la nature est ainsi faite. Un atome de carbone sur 1000 milliards, c'est du carbone 14. Et comme disait Jean-Marc à l'instant, le carbone 14, il a un peu trop de neutrons. Et donc ce carbone, il se désintègre.
Il est radioactif. Il émet de la radioactivité.
On peut pas dire il émet de la radioactivité. Mmh. Parce que la radioactivité, c'est l'émission, justement, de quelque chose. Et dans notre corps, il y a du carbone. Un atome de carbone sur 1000 milliards dans notre corps, c'est du carbone 14. Et en ce moment même, on est en train d'émettre, chacun, vous, moi, Jean-Marc, quelque chose comme 4000 rayonnements par seconde à cause du carbone 14. Mais il y a aussi dans le corps du potassium 40, en gros 4-5 000 aussi.
Alors ça, c'est pour la radioactivité naturelle, donc qui est partout, qu'on émet nous-mêmes. Quand est-ce que les physiciens ont découvert ce phénomène naturel, la radioactivité ?
Le phénomène naturel, c'est facile. 1896, Henri Becquerel, il découvre la radioactivité de l'élément uranium. 2 ans après, Pierre et Marie Curie découvrent, dans les minerais d'uranium, 2 autres éléments beaucoup, beaucoup plus radioactifs que l'uranium lui-même, qui sont le radium et le polonium.
Et ensuite,
il y en a d'autres. Hein. Il y a le thorium.
Et c'est la fille de Pierre et Marie Curie, Irène et son époux Frédéric Joliot, qui eux vont être les premiers plus tard à créer de la radioactivité artificielle.
Voilà. Alors le mot artificiel est peut-être un petit peu mal choisi, parce que la radioactivité elle-même, le fait qu'un noyau se désintègre, ce noyau-là, il le fait naturellement. Bon, on ne l'oblige pas à le faire. En revanche, ce noyau qui est dit artificiel, ça veut dire que dans la nature, il n'existe pas. Et on le fabrique. Par exemple, on prend un noyau qui est bien dans sa peau, il n'est pas radioactif, on lui fait avaler un neutron.
Et pour qu'il devienne radioactif.
Et là, il devient radioactif. Donc, cette action de fabriquer cet élément-là, cet isotope, comme disent les physiciens, c'est cet isotope qui est artificiel. Mais la radioactivité elle-même, sa désintégration est tout à fait naturelle.
Alors cette radioactivité, on va pas dire artificielle, mais donc poussée, forcée par l'homme,
oui.
Elle va avoir des buts, enfin ça va être pour le meilleur comme pour le pire. On va revenir sur les applications, mais c'est quand même en premier des militaires qui vont s'en servir.
Alors l'affaire des militaires, il faut mettre un petit peu à part parce que c'est un autre phénomène qui est en jeu et je pense pas qu'on puisse le mélanger avec. C'est la fission qui d'ailleurs se fait aussi naturellement, mais et qui concerne les noyaux d'uranium essentiellement. Donc, la fission, c'est quand on prend un noyau et on le brise en deux. Oui, c'est un peu différent par rapport à ce dont on parlait, Jean-Marc parlait, un noyau qui se sent pas bien et qui change, qui émet quelque chose. Mais il se trouve que ce sont les recherches qui ont démarré avec la radioactivité artificielle entre guillemets, qui ont abouti à la découverte de la fission.
Autour de la question, pourquoi la radioactivité dans cette exposition du Palais de la Découverte de Homer à Oppenheimer? On va s'arrêter sur la figure du physicien américain Oppenheimer, directeur scientifique du projet Manhattan. Il est considéré comme le père de la bombe atomique. Et si vous prêtez l'oreille, amis auditeurs, vous le retrouverez dans le tube de Sting, Russians. Vous nous l'avez soufflé, hein, Camille Fadel, qu'on écoute tout de suite sur RFI. La guerre froide version Sting sur RFI autour de la question pourquoi la radioactivité avec nos invités, le physicien Jean-Marc Bonnet-Bidot du CEA et Camille Fadel qui dirige l'unité de physique du Palais de la Découverte. Nous découvrons que la radioactivité naturelle issue de la Terre, du cosmos, des étoiles est présente partout. Cette face sombre de la matière que nous disséminons aujourd'hui ou que nous tentons parfois nos risques et périls de domestiquer ne sert pas qu'aux militaires ou à l'industrie nucléaire. À quoi sert la radioactivité naturelle? Écoutez l'éclairage du géologue et paléontologue Éric Buffetot.
La radioactivité s'est révélée très utile pour les géologues parce que c'est elle qui nous permet de chiffrer l'âge de la Terre et des épisodes de l'histoire de la Terre. Avant que l'on découvre la radioactivité, on avait pratiquement pas de moyens fiables de dater les roches et donc de mettre des chiffres sur le long calendrier de l'histoire de la Terre. Et très rapidement, après la découverte de la radioactivité, dans les premières années du XXe siècle, il y a des physiciens qui se sont dit, mais à partir du taux de désintégration de certains éléments radioactifs contenus dans les roches, on devrait pouvoir estimer leur âge. Et assez vite, ils ont réussi à établir une chronologie de l'histoire de la Terre, donc qui est sans cesse affinée, et encore aujourd'hui, qui nous permet de savoir, eh bien, par exemple, que la Terre a à peu près 4 milliards et demi d'années, que les plus anciens êtres vivants ont plus de 3 milliards d'années, que les dinosaures se sont éteints il y a 66 millions d'années, etc. Tout ça, on doit à des techniques qui utilisent la radioactivité.
Voilà comment utiliser la radioactivité naturelle, ça sert à remonter le temps.
Oui, absolument, parce que en fait, finalement, un atome radioactif, on parlait tout à l'heure de comment il revenait à l'équilibre, et c'est comme un tic-tac d'une horloge. C'est-à-dire qu'effectivement, il se transmute, il diminue en nombre selon une loi très 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 bien connue. Alors, on caractérise ces lois par ce qu'on appelle la demi-vie, c'est-à-dire le temps au bout duquel un atome radioactif sera revenu à moitié à la normale. C'est-à-dire il aura diminué une moitié de sa forme radioactive. Et chaque élément radioactif est qualifié par cette durée de vie. Par exemple, et je pense que c'est à quoi faisait l'allusion de géologue, l'uranium dont on parlait, qui est quand même un des éléments le plus abondants. Il y a trois éléments abondants sur Terre et dans l'univers après la formation par les étoiles, le thorium, l'uranium et le potassium, pour ce qui concerne les plus abondants. Et chacun a une durée de vie. L'uranium, par exemple, c'est 4,5 milliards d'années. Exactement le même ordre de grandeur que l'âge de la Terre.
Que l'âge de la Terre, lui, oui.
Voilà. Et donc, c'est comme ça. Donc, ça nous permet de dater au moins quelque chose qui a au moins 4,5 milliards d'années. Mais il faut bien réaliser, quand on parle de durée de vie, pour qu'un élément, par exemple, ait totalement disparu, ça nous donnera quand même l'échelle de temps, hein, de ces choses-là. Il faut au moins 10 demi-vies. Parce qu'il diminue par 2, par 2, par 2. Si vous faites cette opération divisée par 2 10 fois, vous arrivez à 0,1%, donc pratiquement plus rien.
Donc ce sont des échelles de temps gigantesques.
Pour que tout l'uranium disparaisse sur la Terre, il faudra encore 10 fois 4,5 milliards d'années.
Donc on a le temps de voir avant que l'uranium disparaisse.
On utilise aussi d'autres éléments. Le thorium est très intéressant parce que c'est 14 milliards d'années, sa demi-vie. C'est-à-dire l'âge de l'univers carrément, hein. Et donc, on l'utilise parce qu'il nous permet de dater pratiquement tout, puisque évidemment, on n'a rien qui dépasse 14 milliards d'années. Et voilà comment on utilise ces éléments radioactifs en mesurant simplement la proportion qui a disparu, en fonction de ce qu'ils produisent derrière. Et alors, c'est un dateur très très précis.
Alors, autour de la question, pourquoi la radioactivité et en quoi est-elle utile aux chercheurs, aux scientifiques? Alors, à part le fait de dater, c'est peut-être un petit raccourci, mais la radioactivité, elle est extrêmement utile en médecine, parce qu'il n'y aurait pas de rayon X sans la découverte de la radioactivité. Aujourd'hui, il n'y aurait pas d'IRM non plus sans découverte de radioactivité.
Ah non, l'IRM est totalement différent.
Même si ça produit de la radioactivité.
Non, l'IRM, non. Non, 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 non.
Non, alors, je pense que la confusion vient du fait que l'IRM, à une époque, on parlait de...
imagerie à résonance magnétique.
Résonance magnétique aujourd'hui, mais avant on parlait de RMN, résonance magnétique nucléaire.
C'est ça.
Il est vrai
donc
que ça
n'a pas de rapport.
Non, il se trouve c'est-à-dire que c'est un comportement du noyau atomique. Là, on le fait réagir avec un fort champ magnétique, mais qui n'a rien à voir avec son comportement quand il est radioactif et qu'il décroît et qu'il se transmute.
Donc, pourquoi la radioactivité pour les rayons X, oui.
Alors les rayons X, alors
non plus.
Vous voyez, c'est tout à fait normal parce qu'on est tous un tout petit peu. Il y a les rayons gamma aussi qui peuvent provenir d'autres choses. Non, la radioactivité émet trois types de rayonnement. Vous savez, on parle d'alpha, bêta et gamma. Alors alpha, c'est des noyaux d'hélium, hein, l'élément après l'hydrogène. Bêta, ce sont des électrons et leurs anti-électrons qu'on appelle des positons. Et gamma, c'est la forme la plus énergique de la lumière. Alors ces trois manifestations sont purement liées à la radioactivité. Et donc on a utilisé ces rayonnements-là. Par exemple, en médecine, on peut vous inoculer un très faible proportion d'éléments radioactifs, par exemple du thallium, des choses comme ça. Et ensuite, avec une caméra de l'extérieur, enregistrer les rayons gamma qu'il émet dans votre corps et les suivre à la trace. Et on peut donc localiser là où cette substance, qui est en général associée à une autre, va se fixer ou ne pas se fixer. Donc on utilise des micro-micro-doses d'éléments radioactifs juste pour avoir une possibilité de les retrouver dans votre corps facilement. C'est ça, c'est la médecine nucléaire. Avec la radioactivité.
Et c'est donc une utilisation d'éléments radioactifs qui existent.
Qui existe.
Pas une fabrication.
Non, pas forcément. On peut les produire. On peut les, c'est pas forcément naturel. On peut très bien produire en petite quantité des éléments radioactifs destinés, effectivement, à ces choses-là. Par exemple, on peut aussi vous inoculer une dose relativement élevée, ce qui va nous faire paraître que quand même sa radioactivité est extrêmement dangereuse pour la nature, puisqu'elle est capable, en disséminant sa radioactivité localement dans votre corps, de faire disparaître une tumeur. Mais simplement en tuant les cellules.
Autour de la question, pourquoi la radioactivité? On continue d'explorer le sujet plus complexe qui n'y paraît. Attention aux idées reçues. On se retrouve dans 3 minutes, si vous le voulez bien, amis auditeurs, juste après le flash d'infos.